C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Un sujet de santé publique qui touche particulièrement les hommes de la diversité sexuelle, le chemsex, soit la consommation de drogues synthétiques dans un contexte sexuel. Nous accueillons Yannick Godette, qui est doctorant en travail social à l'UQAM et membre de la chaire TRADIS, dont la recherche se concentre donc sur cette pratique. Bienvenue au studio, Yannick.
Merci de me recevoir.
Alors, pour commencer, comment on définirait le chemsex, même si j'en ai donné une idée tantôt en présentation, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la pratique?
Oui, bien, enfin, le chemsex, c'est une pratique en contexte sexuel qui concerne principalement les hommes de la diversité sexuelle, aussi les personnes trans, les personnes non-binaires. On va s'attarder principalement à certaines substances plus spécifiques, donc le crystal meth, le GHB et la kétamine, qui sont davantage mises de l'avant à Montréal. Puis, ça va être une pratique qui va permettre de prolonger les relations sexuelles et la satisfaction sexuelle pour certaines personnes.
Alors, pourquoi... Parlons de ces drogues-là, parce qu'on ne les connaît pas tous. En fait, j'en connais, mais c'est parce que les personnes qui nous écoutent ne sont peut-être pas au courant. Le crystal meth, c'est quoi?
Le crystal meth, en fait, c'est un psychostimulant, en fait, très puissant, en fait, donc sous forme de cristaux. Souvent, on a l'image de Breaking Bad qui est associée au crystal meth, par exemple. Mais c'est une substance qui est particulièrement consommée chez les hommes de la diversité sexuelle. Donc, dans la population générale, la consommation de crystal meth est beaucoup plus faible. Chez les hommes de la diversité, on va parler environ de 10 à 12% selon les dernières études en Europe, par
exemple. Le GHB, on connaît ça quand même parce qu'on l'a souvent associé à la drogue du viol. Pourquoi on prend ça?
En fait, la raison pour laquelle les gens vont faire du chemsex, c'est principalement pour justement prolonger les relations sexuelles, augmenter les sensations corporelles, mais aussi explorer leur sexualité, par exemple.
Puis je vais terminer avec la kétamine, la drogue d'Elon Musk. Alors, cette drogue-là, qu'est-ce qu'elle fait?
La kétamine, en fait, selon ce que les gens nous rapportent, c'est beaucoup, en fait, pour peut-être dissocier en contexte sexuel, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont être en contexte de polyconsommation avec les substances. Donc, souvent, vont consommer du crystal meth, mais aussi crystal meth kétamine, crystal meth GHB. Donc, il y a des mélanges qui peuvent se faire en ce sens-là avec les autres substances qui sont déjà mobilisées par la communauté. On peut penser aux poppers, par exemple.
Yannick, tu l'as déjà dit, là, c'est une pratique qui est plus présente chez les hommes de la diversité et les personnes trans et non-binaires aussi. Pourquoi?
Pourquoi? En fait, je pense que c'est des substances d'abord qui circulent dans nos milieux déjà depuis le milieu des années 2000. À Montréal, on parle plus de 2008-2009 pour l'arrivée du crystal meth. C'est des substances aussi qu'on va retrouver dans les espaces physiques et dans les espaces virtuels qui sont investis par les hommes de la communauté. Par exemple, au début des années 2000, on parlait beaucoup de MDMA, cocaïne, qui était pour danser justement dans les bars, dans les clubs. Aujourd'hui, on va retrouver le crystal meth, par exemple, davantage dans les saunas, où on va retrouver des personnes qui vendent du crystal meth, notamment sur les applications de rencontres mobilisées par la communauté. Donc, c'est quand même assez accessible en ce sens.
Avant d'aller plus loin pour parler de ces pratiques-là, j'aimerais quand même qu'on soit clair, c'est quoi les dangers de cette consommation-là? Parce qu'on s'entend, il n'y a pas toujours des dangers à toutes les consommations, là, mais quand ça devient dangereux?
Mais en effet, je pense que c'est important de le nommer. C'est pas parce qu'on consomme du crystal meth une fois que forcément on va avoir des répercussions sur l'ensemble de notre vie pour la suite. Quand la consommation devient problématique, les répercussions, elles sont là, elles sont bien présentes. Il va y avoir des répercussions physiques, évidemment. Ça altère le sommeil, ça altère l'appétit, donc ça peut avoir des répercussions en ce sens-là, des répercussions sur la santé mentale, beaucoup. Donc, anxiété, des affects un peu plus dépressifs, des personnes qui vont vivre des épisodes psychotiques aussi. C'est quand même... plutôt fréquent, je vous dirais. Puis on sait que le crystal meth est davantage associé aux psychoses aussi. Donc ça, c'est démontré. Évidemment, la dépendance qui peut s'installer aussi. Le GHB, c'est une des substances les plus dangereuses aussi si on essaie de cesser complètement. Donc ça demande une préparation en ce sens avec des professionnels de la santé.
OK. La thèse sur laquelle tu travailles, ça porte pas directement sur les pratiques, mais les émotions liées au chemsex. Qu'est-ce que l'analyse par les émotions? Qu'est-ce que c'est? Les affects, la solitude, la recherche d'appartenance permet de mieux comprendre sur les personnes qui pratiquent le chemsex.
Oui, en fait, donc moi, je me suis intéressé à la perspective affective sur les émotions. Souvent, quand on va parler de chemsex, quand on regarde dans les témoignages, mais aussi dans la littérature scientifique, en intervention, même j'ai été travailleur social auprès de personnes qui font du chemsex, on voit deux cas de figure. Un cas de figure où les gens vont parler beaucoup de la honte qu'ils revivent, la honte, la solitude qui a été vécue, mais on s'arrête uniquement à cela. Puis il y a d'autres personnes qui vont aborder tous les plaisirs autour du chemsex, donc l'euphorie, la joie de se retrouver dans une communauté. Moi, ce que je voulais, en fait, c'est avoir une perspective peut-être un peu plus intégrée de ce phénomène-là, justement pour ne pas minimiser les impacts qui sont réels, comme on vient juste d'en discuter, mais aussi ne pas stigmatiser davantage une population qui est déjà stigmatisée en fonction de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de la consommation de substances psychoactives aussi.
Donc, c'est une approche très holistique, si je comprends bien.
Oui, c'est vraiment l'objectif de ce projet-là. C'était vraiment d'avoir une perspective globale sur le chemsex, mais aussi sur ce qui est vécu avant le chemsex et ce qui est vécu pendant le rétablissement.
J'aimerais rappeler qu'il y a plusieurs choses. Bon, on a parlé du risque de surdose, qui est un enjeu majeur, mais il y a aussi un point crucial sur la réduction des méfaits, c'est la répression policière. Alors, quand on a peur d'être arrêté, on n'appelle pas le 911 quand quelqu'un est en difficulté. Ça peut être un problème. C'est quoi les impacts de cette peur sur la sécurité des utilisateurs ou utilisatrices de drogue?
Mais c'est sûr que si les gens hésitent à contacter les services d'urgence, ça peut mettre la vie de certaines personnes en danger. Ça, il n'y a aucun doute. Mais si je reviens à ma perspective affective aussi, c'est que ça crée des émotions. Tout ça aussi. Donc, si par exemple on était dans une perspective où les gens avaient l'information autour de la loi du bon samaritain, par exemple, qui fait en sorte que lorsque on contacte une personne qui est en risque de surdose, présentement, donc si on contacte les services d'urgence, on ne peut pas être criminalisé pour toute infraction mineure autour de la consommation, de la possession de substances psychoactives.
C'est bon à savoir. Donc, si quelqu'un est en surdose autour de soi, on peut appeler la police, puis en principe, il n'y aura pas d'arrestation.
Il n'y aura pas d'arrestation en lien avec la consommation de substances et la possession simple de substances psychoactives.
D'accord. Comment on peut aborder, d'après votre approche, comment on peut aborder donc la réduction des méfaits?
La réduction des méfaits, pour moi, il faut d'abord que ce soit une option. On ne peut pas demander aux gens d'être forcément abstinents avec la consommation de substances psychoactives et le chemsex. Donc déjà, de rendre la réduction des méfaits accessible et possible, notamment par la création de groupes de soutien. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a des options qui sont excellentes pour plusieurs personnes, comme Crystal Meth Anonyme, par exemple, qui sont viables et qui fonctionnent pour certains, mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Donc, la réduction des méfaits, c'est de prendre ça sur le plan communautaire aussi. Ce n'est pas uniquement, par exemple, d'encourager les gens à réduire leur consommation dans des interventions individuelles, il faut que ce soit porté par une communauté. Ensuite, il y a des éléments peut-être plus techniques, donc faire tester ces substances aussi, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a des services qui existent à Montréal pour faire tester ces substances. Je pense à Cactus, je pense à Spectre de rue, notamment, qui sont présents dans notre communauté. Donc, mobiliser ces services-là, c'est essentiel. Aussi, l'accessibilité à l'naloxone dans les pharmacies communautaires, notamment. Porter l'naloxone sur soi aussi, si on organise un sex party, par exemple, en contexte de chemsex, d'avoir des kits de naloxone, ce serait une bonne pratique.
Je vais revenir sur... on a parlé de faire tester la drogue. Pourquoi on doit la faire tester?
Pourquoi on doit la faire tester? Parce que ça évite des drames humains. Oui. On sait que, présentement, il y a une augmentation des surdoses. L'année dernière, c'était une année record, malheureusement, au Québec. Donc, malheureusement, cette année, selon les données préliminaires de janvier à juin, on semble être dans la même tendance.
Ah non.
Ouais. Donc, je pense que c'est d'éviter des drames humains.
D'éviter d'avoir des substances qui sont dangereuses dans la drogue. On pense au fentanyl, qui sont quand même des produits qui sont dangereux.
Oui, absolument. La présence des opioïdes peut avoir des répercussions majeures sur la santé et la sécurité des usagers.
Yannick, j'étais, c'est pas que je veux me vanter, mais j'étais en France, j'étais à Paris cet été. J'ai rencontré Jean-Luc Romero-Michel, qui est maire du 12e arrondissement, maire adjoint. Je pense qu'il ne l'est plus maintenant, ils ont eu des élections en France. Mais il m'avait montré sur le site de la ville de Paris, il y a un onglet où on peut trouver les sites de consommation. C'est toute cartographie et les sites de test. Ici, est-ce qu'on a ça?
À ma connaissance, nous n'avons pas ces initiatives-là aussi. Malheureusement, mettre ces outils-là en place, c'est quelque chose qui est dispendieux. Puis, par exemple, quand je reviens sur le chemsex, présentement, c'est la communauté qui prend en charge les services. Puis, on a de la difficulté à rendre les initiatives pérennes. Même chose avec mettre en place...
du financement.
Il manque du financement. Donc, de considérer ces enjeux-là comme étant des enjeux de santé publique qui demandent un financement spécifique et spécialisé, ça permettrait de mettre en place ce genre d'initiative-là pour que les gens aient accès facilement à l'information.
Alors, il y a plusieurs services qui existent de santé, qui sont des services qui sont des urgences, des centres de désintoxication. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mieux accueillir, pour mieux s'occuper des personnes qui consomment en contexte sexuel?
Bien, je pense que d'abord, pour les professionnels de la santé et des services sociaux, c'est de s'informer sur la pratique, aller chercher la formation. Il y a une formation chemsex qui existe au Québec, qui a été mise en place par l'INSPQ quand même. Donc, d'aller chercher la formation, je pense que c'est un pas. Et ce que ça permet, c'est de ne pas reproduire la stigmatisation auprès de ces usagers-là. On sait que la stigmatisation auprès des communautés marginalisées, c'est un des principaux freins et une barrière à l'accès aux services de manière générale. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, aller chercher l'information, se renseigner, s'informer pour soi-même déconstruire ses préjugés, je pense que c'est la première chose à faire pour qu'il y ait un meilleur accueil des personnes qui pratiquent le chemsex auprès des services.
J'aimerais aussi parler des milieux communautaires. Comment peuvent-ils mieux accompagner leurs membres?
D'abord, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce sens-là. Justement, d'avoir des groupes, notamment pour favoriser l'inclusion, la prise de parole des personnes qui pratiquent le chemsex. Donner de l'information aussi sur ces substances-là. C'est quoi le chemsex présentement? Il y a des gens qui nous rapportent qu'ils n'ont pas l'information sur les substances qu'ils consomment. Quelque chose d'aussi simple que ça, c'est important d'en parler. Je pense qu'en tant que communauté aussi, pas juste les organismes communautaires, mais en tant qu'homme de la diversité, en tant que personne trans, en tant que personne non-binaire, c'est important qu'on soit capable de parler de ces enjeux-là dans une perspective déstigmatisante aussi. Qu'on ne considère pas la consommation de substances comme étant un drame nécessairement. Présentement, il y en a qui prennent peur quand on parle de consommation de substances. Je pense qu'on a quelque chose à faire sur le plan communautaire aussi, pas juste les organismes, mais vraiment tous ensemble.
La chance d'en parler, c'est quoi les préjugés les plus tenaces là, qu'on voudrait faire absolument abolir ou déconstruire auprès du grand public?
Pour moi, une des choses les plus tenaces auprès de l'ensemble des personnes qui consomment des substances psychoactives, surtout des drogues illicites plus dures, c'est, pardonnez-moi, c'est que ces personnes-là n'ont pas vraiment de capacité d'agir. C'est des personnes, en fait, qui sont un peu prises par une substance,
mais ces
personnes-là ont des choses à nous apprendre aussi sur comment est-ce qu'elles souhaitent être aidées, notamment. Et je pense que c'est vraiment important qu'on considère la perspective de ces communautés-là pour mieux se renseigner puis avoir de meilleurs services pour eux.
Puis comme on l'a dit, c'est la consommation de drogue n'est pas toujours problématique. En fait, probablement qu'elle n'est presque, elle n'est pas pour la plupart des gens, mais quand ça devient problématique, il faut s'en occuper.
Exactement.
Ben là-dessus, Yannick Godette, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir participé et d'avoir partagé les résultats de cette recherche avec nous. C'est quand même pas rien. Alors, je vais rappeler que tu es doctorant, toujours. Doctorant en... excuse-moi, je vais retrouver mes feuilles. Ça, c'est l'habitude. OK. Doctorant, donc, en travail social à l'UQAM et membre de la chaire TRADIS?
Oui, TRADIS pour Trajectoire, Diversité, Substance.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
Merci. Après la pause, on a nos chroniques, donc enquête, et on va parler aussi en toute fluidité.